Et c'est qui dirige la planète?
C'est personne, c'est tout le monde. On a une réunion de planète une fois par an avec les délégués des villages au sommet d'une montagne.
Pourquoi au sommet d'une montagne?
Qui est en voie malheureusement de disparition de la langue française, c'est le mot « moins ». On entend toujours « travailler plus »,« consommer plus »,« gagner plus »,« manger plus ». Vous, vous dites « moins », et j'ajouterai « moins » et « au mieux ».
Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon, j'ai plus d'argent qu'avant.
Ah, ce sont les plus-values de vos placements.
Mes placements?
Oui.
Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5%?
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous sommes jeudi, il est 20h30 et quand c'est jeudi et qu'il est 20h30, c'est
Zoom écologie.
Très bien. Bon, temps de réponse un petit peu élevé, mais on va s'améliorer au fur et à mesure de l'émission. Nous sommes en février et qui dit février dit la Saint-Valentin. Et donc puisque
Chandeleur aussi.
Non, c'est en janvier la Chandeleur. Non?
Ah non, c'était mardi.
Merde, bon, donc ouais, bon, là-dessus, on était pas carré. Bref, qui dit février dit Saint-Valentin, et donc émission spéciale sur les transports.
Ouais.
Voilà. Ne cherchez pas le lien, il n'y en a pas. Avant de parler transports, on va peut-être enchaîner tout de suite avec le best-of. Je vois qu'en région, on est un petit peu occupé, mais on va quand même nous envoyer le best-of rapidement. Best-of de la dernière émission.
Donc on a préparé donc cette émission peut-être un peu moins bien que d'habitude parce que aussi on a eu donc quelques embûches à Noël, surtout au niveau des desserts.
Embûches de Noël.
Voilà, ça c'est une première blague. Et la relocalisation de l'économie. Donc c'est pas sympa. C'est la première de l'année, c'est difficile.
Et un truc comme dans 2000 ans, je crois, la masse de tous les humains de la planète, ça serait la masse de la Terre.
Donc on tomberait. Donc on va avoir des citations, donc des personnalités politiques ou pas politiques qui ont dit des choses durant cette année 2009. Et il faudra trouver qui a dit ces mots. Donc on tomberait.
Et donc vous êtes sur NRJ, vous écoutez...
Voilà, ça c'est fait, une petite blague. Il y a un clown qui vient de passer dans le studio en fait, et il est vraiment très drôle. Donc on tomberait.
Je suis utilisé pour me maintenir en forme. La personne.
Là oui, une oui.
Donc on a préparé donc cette émission peut-être un peu moins bien que d'habitude parce que aussi on a eu donc quelques embûches à Noël, surtout au niveau des desserts. Il y a un clown qui vient de passer dans le studio en fait, et il est vraiment très drôle. Donc on tomberait.
La masse de tous les humains.
Bien, comme vous avez pu l'écouter, c'était sans doute une des émissions radiophoniques les plus creuses de l'histoire. Mais une émission, on a bien rigolé quand même. C'est l'essentiel.
Ouais, restera dans les annales. Hein.
Bien, pour parler avec nous ce soir, monsieur Vincent Liégé. Vincent Liégé, ça va bien ce soir?
Très bien, merci. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors d'habitude, je fais une petite biographie rapide de l'invité qui est avec nous. Bon, donc en général, je me sers forcément de Google. Là, j'ai tapé votre nom. Bon, j'ai trouvé deux éléments. Je ne suis pas certain de la véracité de ces éléments. Vous allez me les confirmer avec moi tout de suite. Vous êtes diplômé de l'Université de Clermont-Ferrand en ingénierie mécanique.
Tout à fait. Pour être plus précis, d'une école d'ingénieurs à Clermont-Ferrand.
Oh putain, je suis bon. Premier élément validé. Deuxième élément, vous êtes membre d'un forum des ingénieurs qui remettent en doute la thèse officielle des attentats du World Trade Center.
Exactement, et ce forum est incontournable. C'est même un site internet qui s'appelle Reopen 911, qui est une association citoyenne qui pose des questions autour du 11 septembre et qui invite les citoyens à se poser ce genre de questions et qui, dans une démarche pacifiste en solidarité avec les familles de victimes des attentats du 11 septembre, demande une nouvelle enquête sur les attentats du 11 septembre.
Vous ne pouvez rien cacher à Zoom Écologie. On sait tout de vous. à part ça, bon, on vous a invité un petit peu pour ça, mais aussi beaucoup, parce que donc, vous êtes le porte-parole de la DOC. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement deux, trois mots sur cette association ?
Alors, l'association d'objecteurs de croissance, qui est en fait un mouvement politique autour des idées de la décroissance. Cette association, ce mouvement politique est très jeune, puisqu'il a été créé en septembre dernier à Beaugency, dans la continuité de la campagne Europe décroissance, où on avait des listes dans 6 super régions européennes lors des élections européennes.
Ça parle un petit peu politique.
Et puis, c'est en fait la réunion d'un grand nombre d'objecteurs de croissance qui étaient au départ dans différents groupuscules ou petits groupes et qui souhaitent ensemble construire une maison commune pour défendre et colporter les idées de la décroissance.
Ok, merci. Je dis quand même un petit bonjour à tous mes chroniqueurs. Vous allez bien, les amis ?
Bah bonsoir, oui.
Bonsoir, ça va très bien.
Bonsoir.
Donc, je l'ai déjà dit, une émission orientée sur le thème des transports et donc de la décroissance. Dans la préparation de l'émission qu'on a fait, on a un petit peu analysé justement ce sujet. Et tels des bacheliers qui passeraient leur épreuve de français au bac, on a décidé de scinder cette émission en 4 grandes parties, qui seront les suivantes. Le transport de marchandises, tout d'abord. Le transport, vu d'un point de vue, les transports professionnels, ce qu'on peut communément appeler les voyages d'affaires. Puis les transports individuels au quotidien, comment on se déplace. Et enfin, les transports dits de vacances ou de loisirs. Avant de lancer le débat avec la première chronique de Sylvain, un chiffre simplement qui résume un petit peu l'état des lieux. Il y avait beaucoup de chiffres, j'ai décidé d'en sélectionner un seul. Oui, on sait que vous avez des chiffres. Le dernier Porsche, le 4x4 de Porsche, qui s'appelle le Cayenne, fait 521 chevaux. Oh là là. Soit 5677% plus puissant que la 2 chevaux qu'utilisaient les bonnes sœurs dans le gendarme à Saint-Tropez.
Oui, mais il va plus vite aussi, donc ça vaut le coup. Donc,
les bonnes sœurs dans le gendarme à Saint-Tropez, elles n'allaient pas vite ?
Bah, quand tu as fermé les fenêtres, ouais. Mais quand il fait chaud...
Elles traçaient un max. Bref, 5677% d'augmentation de puissance pour grosso modo à peu près la même utilité, se déplacer du point A au point B. C'était le chiffre de lancement de ce débat sur le transport et la décroissance. Et Sylvain, nous t'écoutons pour la première partie, ta première chronique, qui est donc axée, je le rappelle, sur le transport des marchandises.
Bah donc on va continuer sur quelques chiffres pour montrer effectivement l'évolution depuis quelques années du transport en général et notamment donc du transport en marchandises, de marchandises. Donc déjà, on a l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a quelques chiffres en tout cas, et qui nous montre qu'en un siècle et demi, donc 150 ans, les échanges de marchandises ont été multipliés par 1000 sur la surface du globe. Donc on voit qu'il y a une grande progression depuis un siècle et demi. Et évidemment, cette croissance du transport de marchandises, encore une fois, augmente encore plus ces dernières années. Donc on a avant tout des grands vecteurs de transport qui sont, pour le commerce international, c'est beaucoup de transport maritime, donc des bateaux. Et puis après, suite très bien par le transport routier en termes de moyens utilisés pour ces transports de marchandises.
Donc le transport par pigeon a connu une chute.
Le transport par pigeon, en fait, n'a jamais vraiment beaucoup marché. Ouais. Il y a eu quelques chiffres, il y a eu une épidémie de pigeons aussi, donc il y a pas mal de problèmes. Mais ça peut repartir, hein, c'est un secteur qui est niche, un secteur niche.
Secteur d'avenir, je dirais.
Secteur d'avenir. Donc maintenant, si on se concentre sur la France, qui est en fait, en plus, de par sa géographie, donc c'est le centre européen en termes de transport de marchandises, encore une fois, on a entre 90 et 2000 le transport national de marchandises en France, qui est assuré à 80% par des camions. Qui a augmenté de 30%. Donc on a augmenté de 30% le transport de marchandises. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais je pense que c'est le nombre de kilomètres ou le nombre de kilomètres parcourus par les marchandises. Mais sur ces 30%, il y a une augmentation de 30% de total de transport de marchandises et 70% des transports intermédiaires, c'est-à-dire non plus pour aller d'un point A du départ, qui est, je sais pas, un point de production, jusqu'à un point B, un client final. Donc là, il y a une augmentation de 30%, mais 70% entre des chemins, maintenant, des routes qui ont été agrégées entre le point A et le point B, donc on passe par un tel port, on change, on décharge
beaucoup
sur tel
plus d'intermédiaires en fait.
Donc c'est avant tout ce transport transit qui a fait exploser les comptes. Donc pour ça, il y a plein d'exemples. On a des exemples caricaturaux, mais qui représentent bien, c'est des choses assez absurdes. C'est par exemple les crevettes danoises, qui sont on les aime, ces crevettes, donc on les veut. Pour ça, donc, il faut minimiser toujours, comme toujours, il faut minimiser les coûts, minimiser le prix, donc on va chercher la main-d'œuvre la moins chère.
Les Danois.
Donc les crevettes sont pêchées au Danemark, sont envoyées ensuite en camion, puis en bateau jusqu'au Maroc pour être décortiquées. Donc les Marocains décortiquent très très bien les crevettes. Et évidemment,
moins cher
c'est quand même mieux.
Oui, mais bien.
Ensuite, elles sont envoyées dans des camions frigorifiés jusqu'au Danemark pour être emballées, ainsi de suite. Et ensuite, redistribuées dans toute l'Europe par camion, encore une fois.
Afin qu'on puisse afficher le petit truc sur le paquet, crevettes du Danemark.
Quoi. C'est des crevettes danoises avant tout.
En plus, biologique.
En plus, des crevettes, il me semble que des crevettes au Maroc, il y en a beaucoup moins. Donc on les cherche au Danemark. Voilà.
Comment tu te permets d'affirmer ça?
Je suis allé pêcher là-bas.
Tu fais des recherches?
Ouais. Après, il y a d'autres exemples. Il y a une étudiante allemande qui a fait une thèse en 93 pour montrer qu'un pot de yaourt de fraise faisait des centaines de kilomètres si on cumulait tous les ingrédients, ainsi de suite. Donc on voit que tout ça explose et que c'est avant tout les transferts intermédiaires qui font que le transport a explosé.
Donc en fait, c'est le système économique qu'il y a derrière. Parce que fondamentalement, on pourrait très bien décortiquer les crevettes au Danemark. Mais c'est simplement, voilà, c'est dans une logique de réduction des coûts.
Bah, en termes de coûts, c'est évidemment en termes de coûts, profit, c'est évidemment très bien. Ensuite, on arrive à des scénarios absurdes. Mmh. Donc à partir de là, on peut se poser des questions. Notamment, maintenant on se pose des questions, notamment la commission Stiglitz récemment qui a dit qu'il fallait penser à des nouveaux indicateurs, le PNB c'était pas suffisant, mais ça a déjà été pensé depuis des dizaines d'années. On a notamment un journaliste écrivain qui s'appelle Bertrand de Jouvenel qui a écrit en 68 dans un essai sur le mieux vivre, qui a montré qu'en fait aux USA, entre le début du siècle et les années 50, il y a eu une augmentation du transport pour les aliments de 75%. Donc on peut penser qu'en fait les gens se nourrissaient mieux, il y avait de meilleures qualités de nourriture, nutrition. Et par contre, il a montré aussi que sur la même période, il y a une consommation physiologique, donc c'est-à-dire vraiment l'apport pour les gens, qui a eu une croissance de 12 à 15%. Ce qui veut dire qu'il y a 4/5 de cette croissance des transports alimentaires, enfin dans le marché alimentaire, qui est reflété juste par l'accroissement des services qui est affaire au transport des aliments. Et non pas, d'ailleurs, c'est pas les clients qui en sont bénéficiaires.
D'accord.
À partir de là, on peut poser des questions. On peut se dire, mais où est-on ?
Mais bordel.
Que fait-on ? Donc après, évidemment, maintenant, on peut se poser comment simplifier tout ça. Donc on peut penser à la relocalisation. Mais est-ce que c'est viable pour tous les produits ? Est-ce qu'on se dit, non, c'est terminé, maintenant, on ne peut plus manger de bananes parce qu'on ne sait pas faire ça ici. Le café, c'est terminé. Donc on a quelques questions comme ça pour savoir, connaître le positionnement.
On peut peut-être justement commencer sur la question de la relocalisation parce qu'il y a quand même derrière une idée de coût. Est-ce que le fait que les crevettes, au final, soient moins chères parce qu'on les décortique au Maroc, quelque part, c'est pas bénéfique dans le sens où quelqu'un qui n'aurait pas pu se payer des crevettes si on les avait décortiquées au Danemark peut y accéder grâce justement au fait qu'on les décortique à l'étranger. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent ?
J'en pense que c'est un problème global et qui montre à quel point ce modèle de société de croissance, ce modèle de société économiciste nous amène dans une impasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système économique qui est construit sur la croissance, sur l'endettement. On fait un emprunt, on crée une entreprise, on a besoin de générer des bénéfices pour pouvoir rembourser cet emprunt, pour pouvoir emprunter de nouveau. Et cela, c'est possible uniquement dans une logique de croissance toujours plus grande. Et en fait, on oublie quelque chose, c'est que l'économie, c'est avant tout des flux d'énergie. Qui sont principalement aujourd'hui à 80% des énergies fossiles, des énergies non renouvelables, des énergies que l'on a de moins en moins dans les pays développés, aux pays occidentaux, dont on est de plus en plus dépendant. Et on crée de plus en plus ce modèle de société autour de ça, et on part dans cette fuite en avant complètement délirante. Et on en arrive dans ces aberrations, dans cette absurdité sociale, économique, énergétique, culturelle, environnementale. Mais je dirais, ce qui est le plus terrifiant, c'est que c'est complètement stupide. C'est complètement stupide d'avoir un modèle de société où on passe notre temps à faire voyager tout et n'importe quoi sur des routes, sur des bateaux, dans des avions. Tout ça pour faire vivre un modèle de société qui lui-même n'a pas de sens. Pour revenir à l'histoire qui était la question posée, c'est ça permet à des Marocains d'avoir un emploi et de vivre. Et je dirais, est-ce que c'est un emploi qui a du sens pour eux de dépecer des crevettes qu'ils ne vont même pas consommer ? Est-ce que ça a du sens pour eux de se retrouver à travailler dans des conditions exécrables pour une multinationale occidentale au Maroc, alors qu'ils ont peut-être envie de développer leur pays d'une autre manière ? Ils ont peut-être envie d'avoir des modes de vie différents qui ne sont pas nécessairement le modèle économique occidental tel que nous on le conçoit, qui plus est en goûtant une partie du gâteau qui est celle goûtée majoritairement par l'ensemble de la planète, qui est en fait une illusion de bonheur qui est vendue. On leur vend une illusion de bonheur qu'à travers ce travail, ils auront la chance d'atteindre le bonheur en achetant un bel écran plasma. s'ils ont de la chance.
Ma question, c'était pas tant est-ce que c'est bien parce que ça permet de créer un emploi dans les pays à bas coût tels que le Maroc. C'était plus est-ce que ça n'a pas un bon côté dans le sens où on le démontre économiquement, on arrive à faire baisser le coût moyen des matières premières, dans l'exemple de Sylvain les crevettes, et donc on rend ce bien plus accessible. Alors que si on avait fait l'ensemble de la chaîne de production au Danemark, il n'y a qu'une frange assez réduite de la population en France qui aurait pu accéder à ce bien. Tu vois, est-ce que tu ne peux pas considérer que, quelque Alors, part, d'un point de vue sociétal...
On peut le faire à court terme, en sacrifiant toutes les externalités. En fait, ce modèle économique est extrêmement pervers, puisqu'on a réussi à faire croire, on a réussi à coloniser nos imaginaires pour croire que l'économie, que la loi du marché, que la loi de l'offre et de la demande était aussi forte que la loi de la pesanteur de Newton, que était aussi forte que la loi de l'entropie si chère à Carnot et à Georges Kourogan. Et on a oublié en fait qu'on habitait sur une planète, c'est ce que je disais tout à l'heure, que tout ce qui était économie était en fait des flux d'énergie et non pas des flux d'argent, et que l'argent c'est une abstraction créée par l'humain qui n'a pas de sens, qui est qu'un outil. Et on construit nos sociétés autour de ça. Le problème, il est, c'est qu'avec les crevettes qu'on envoie chez nos amis marocains qui doivent travailler dans des conditions exécrables, que l'on fait ensuite revoyager un peu partout dans toute la France, que l'on met ensuite dans des emballages qui sont faits à base de plastique, de pétrole et autres, dans des usines où ça n'a pas plus de sens de fabriquer des emballages que ça. Et le problème, c'est que tout ça est totalement dépendant, d'une part, du travail humain, qui est un travail qui est inutile, qui pourrait être investi sur des choses socialement, culturellement, humainement beaucoup plus pertinentes et intéressantes, et complètement dépendant de quelque chose dont on va manquer très vite, que sont les énergies fossiles. Et on ne parle même pas des effets secondaires de la surconsommation et de la surproduction de notre système, que sont toutes les pollutions, les gaz à effet de serre, le changement climatique, même s'il y a du débat autour de ça, etc.
Mais donc, vous allez jusqu'où, par exemple, si on parle du café, donc on n'en trouve pas forcément facilement à produire en Europe, est-ce qu'on se dit que on va jusqu'au bout de la logique, on arrête de boire du café, on reste sur notre lait, on reste sur notre eau.
C'est valable pour tous les produits qu'on
produit un peu exotiques.
En France,
voilà. Est-ce qu'on va jusque-là ou on se dit, on continue, mais on rationne, on minimise. Enfin, est-ce que l'objectif, c'est de dire, on arrête le commerce, enfin le commerce international, et on le limite? Ou est-ce que c'est de dire, bon, on n'en est pas jusqu'à là, on est d'accord pour continuer à consommer du café parce que ça reste maintenant, c'est quand même plutôt bon, c'est sympa, ça dynamise, voilà.
Bon, super bien le café.
Ouais, c'est l'ami Ricoré. Ou est-ce qu'on se dit, on continue, et donc ça veut dire qu'on limite par contre les flux, donc on fait des flux directs, on arrive et voilà, et on consomme directement, on arrête de réemballer ainsi de suite, ou est-ce qu'on arrête complètement ces flux-là?
Et je dirais, la question ne doit pas être posée comme ça. C'est aujourd'hui, on est dans un système relation nord-sud.
J'ai préparé pendant deux semaines et bon, ok.
Dans un système relation nord-sud qui est complètement déséquilibré et qui est en fait un système où le nord exploite les ressources naturelles du sud, où le nord exploite la main-d'œuvre du sud, et on n'est pas du tout dans des échanges culturels. Consommer du café, échanger avec des populations où ils ont des productions de café, parce qu'ils aiment faire du café, puis ils ont envie de partager leur café culturellement et autres. Échanger du café entre le nord et le sud, entre deux régions, on est dans des logiques d'échange culturel, respectueux des uns des autres. Pourquoi pas ? À se poser la question ensuite si d'un point de vue énergétique c'est quelque chose de viable, comment on le fait, comment on le construit ensemble. Mais échanger du café dans un système économique où la finalité c'est de faire de l'économie pour de l'économie, où l'on remplace à base d'investissements, d'argent qui vient du FMI, de l'OMC, la mise en place d'un système économique destructeur à la fois culturellement et économiquement pour ces pays, détruisant des centaines d'hectares de production de terres vivrières par des productions de café pour que le petit occidental ait son café le matin, là, moi, je pense que je suis complètement en désaccord. On n'est pas du tout dans la même chose. Après, il est évident que ce genre d'échange culturel, c'est une richesse énorme humaine où on apprend des produits des autres, des savoir-faire des autres, des cultures, des langues des autres. Et la décroissance, c'est avant tout la croissance de l'intelligence humaine contre la décroissance de cette absurdité qu'est ce système économique. Et qui est avant tout des inégalités et l'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation de tout, d'une minorité sur tous, et l'exploitation de tous sur la planète.
Bon, c'est donc Vincent qui aurait eu le dernier mot sur la partie transport. 1-0.
La réponse était plus construite que ma question, c'est ça?
Non, c'est parce que
la question était très construite, je dis, elle ne posait pas le
vrai verbe sujet et tout.
Ok, donc alors voilà, un bref aperçu de la question qu'on peut se poser sur le transport de marchandises. Damien, qu'est-ce que tu as à nous dire plus particulièrement sur les transports professionnels et les voyages d'affaires, les business trips?
Les business trips. Donc je vais essayer de faire rapidement parce que de toute façon pour les habitués, ils savent qu'on est toujours en retard et qu'on n'arrive jamais à faire toutes les chroniques.
Et pour les deux habitués de l'émission. Le
bon nombre d'habitués. Et de toute façon, enfin, c'est des questions sur tous ces transports où on revient un peu sur les sujets centraux avec des relocalisations et des choses comme ça. Mais là, on va parler donc du tourisme d'affaires. Donc, j'ai fait quelques recherches aussi. Et donc, je suis arrivé déjà sur, tenez-vous bien, l'Observatoire du tourisme d'affaires. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui font ça, qui regardent le tourisme d'affaires toute l'année, qu'est-ce qui se passe. Donc, ils avaient une étude à 250 euros. Je me suis dit que c'était bien, mais je ne l'ai quand même pas payé. Donc.
Pour quelqu'un qui va faire rapide, je trouve que tu pars pas mal en digression quand même.
Enfin voilà. Donc le tourisme d'affaires, juste pour un chiffre, parce qu'on donne des chiffres ce soir, donc, est estimé à quelques 20% du chiffre d'affaires des activités touristiques globales. Donc ça a un impact énorme, le tourisme d'affaires. 20%. Donc le tourisme d'affaires, voilà, c'est dans le cadre du travail professionnel, toutes ces conférences qu'on peut faire, des team building à Marrakech ou je ne sais où, qui fait qu'on est censé construire une équipe, un esprit d'équipe dans les sociétés.
Ce qui fait qu'il n'y a pas de crevettes quand tu fais ton team building à Marrakech. Parce qu'ils sont en train de
les mangent au retour.
Tu les manges dans l'avion. Voilà. Et donc, alors, la question qui se pose, pour ces problématiques de transport d'affaires, en fait, vu qu'on comprend que ça ne peut pas durer, on ne peut pas non plus voyager, prendre l'avion, toutes ces sociétés, vu que ça a un impact énorme écologique, c'est. Enfin, il y en a deux déjà. Moi, j'ai deux questions qui viennent à moi, et donc, où j'aimerais ton avis, Vincent, là-dessus. C'est d'abord sur la place de la technologie. Jusqu'où va-t-on dans la technologie? Parce qu'on sait que dans la décroissance, parfois, on ne met pas une place suprême à la technologie comme ça peut être dans nos sociétés maintenant où l'ingénieur doit répondre à tous les problèmes. Donc, est-ce qu'il faut utiliser la technologie pour continuer à faire des conférences,
par exemple,
visioconférences ou des choses comme ça? Sachant que en fait, ces réunions d'équipe peuvent avoir un vrai sens, comme dans des coopératives qui existent, où il y a des assemblées générales, où il y a une vraie vie sociale, et derrière, il y a des décisions qui sont prises pour l'avenir de la coopérative, des choses comme ça, et donc il y a des déplacements. Donc voilà, les deux questions, en gros, c'est ça. Quelle est la place de la technologie? On en fait quoi, là, pour ces choses? Et aussi, jusqu'où on doit s'arrêter, en gros, l'impact écologique, jusqu'où il prend le pas sur la vraie vie sociale et le fait que voilà, c'est important aussi de se réunir, de se voir physiquement.
Mais là, je vais faire le même genre de réponse que précédemment.
La question se pose mal.
Pour avoir vécu une période de ma vie où j'ai bossé sur un projet européen, et c'était une période de ma vie où j'étais extrêmement frustré, c'est-à-dire que j'étais amené à voyager toutes les semaines à Barcelone, à Lisbonne, à Berlin, etc. Puis en fait, il n'y a rien de plus frustrant que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une illusion du voyage, on ne fait que se déplacer, mais on ne rencontre jamais. On est dans des avions, on court, on est dans des aéroports, il n'y a rien qui ressemble plus à un aéroport qu'un aéroport. On arrive dans un grand hôtel intercontinental et autre, il n'y a rien qui ressemble plus à un grand hôtel intercontinental qu'un grand hôtel intercontinental. On rencontre personne, si ce n'est toujours peut-être la couleur de peau de la prostituée change d'un pays à l'autre, plus, en fonction de si on est plus ou moins à l'aise au bar. Et en fait, ça n'a pas de sens. C'est un mode de vie qui n'a pas de sens. On est dans un déplacement continu, pareil, sous perfusion d'énergie fossile, avec toutes les externalités qui ne sont pas du tout prises en compte. On est dans une course. On dit toujours travailler moins pour vivre mieux, hein, reprendre le temps de
vivre. On dit toujours
de
ça,
vivre,
travailler
de
moins pour vivre mieux. Ouais. On dit souvent aussi travailler plus pour vivre mieux.
Et on est dans une course complètement délirante. Et puis on se dit, ah, c'est cool le mec, il va à New York, la semaine prochaine il sera à Hong Kong. Ah, il a vraiment une vie passionnante, mais en fait on ne vit rien, on ne rencontre rien. Donc il y a la question du sens. Et puis après la question de la finalité, les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? Si c'est pour aller faire des trucs aussi délirants que d'aller vendre des actions pour une banque ou aller négocier des contrats pour délocaliser telle entreprise dans tel pays, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est vraiment construire une société humaine pour les humains? Ou est-ce que c'est participer à ce système autodestructeur qu'est cette économie-ci, cette société de croissance?
Mais la question que posait Damien aussi, qui était sous-jacente, c'était de dire, le projet que tu avais fait, donc justement, où tu étais amené à te déplacer pas mal au sein de l'Europe, est-ce qu'au final, tu étais quand même content d'avoir un vrai rapport humain, de rencontrer les gens qui bossaient avec toi sur le projet? Ou est-ce que fondamentalement, tu t'en foutais et tu aurais vu les mecs qu'à travers un écran d'ordi ou au téléphone, voilà, ça aurait été pareil? Enfin, tu vois, c'est ce que disait Damien, à un moment, c'est bien le vrai contact humain.
Ce qui aurait été plus constructif, c'est d'avoir le temps de se rencontrer. C'est-à-dire, ben, tiens, je travaillais, par exemple, à l'époque, je travaillais sur la situation des populations de Ciganes en Hongrie. Ben, c'était beaucoup plus intéressant parce que j'habitais en Hongrie à ce moment-là, ça tombait bien. Et en fait, j'aurais pu aller faire des colloques à gauche, à droite, Mais l'idéal, c'est quand même d'être sur place, d'avoir le temps de rencontrer les gens, d'avoir le temps de vivre sur place, de comprendre un peu la langue, de comprendre un peu la culture, de s'y imprégner, de découvrir les produits locaux sans pour autant qu'ils voyagent à travers
une empreinte écologique complètement délirante,
en avion. Et c'est en fait repenser fondamentalement la société. C'est pareil avec le tourisme de masse. Alors je ne sais pas si c'est la thématique après, je ne vais peut-être pas faire la transition ou anticiper.
Si on arrive jusqu'au bout.
C'est pareil avec le tourisme de masse, où c'est encore un palliatif à ce modèle de société qui nous frustre, à ce modèle de société qui nous stresse, où on va courir toute la semaine sous la pluie à Paris à faire un boulot inintéressant, stressant, avec un management basé sur le stress, etc. Et le week-end, on va se payer 2 jours en avion en Tunisie, dans un Club Med, on va se retrouver contre Occidentaux. Ça n'a pas de sens. Et c'est la combo aussi que ce système est extrêmement fort, c'est qu'on fait de la croissance sur les méfaits de cette économie de croissance à travers les palliatifs que sont les antidépresseurs ou le tourisme de masse ou ce genre d'illusion qu'on est un homme puissant et intelligent parce qu'on prend l'avion tous les 4 matins pour aller dans un hôtel intercontinental.
Donc la mondialisation des échanges n'a aucun sens
Elle n'a aucun sens, celle qu'elle est faite. Elle a du sens lorsqu'on prend le temps de voyager, c'est-à-dire voyager, c'est se rencontrer, parce que voyager sans rencontrer, c'est que se déplacer.
Donc en fait, tout est un problème de vitesse pour toi. C'est plus qu'il faut qu'on fasse ce qu'on fait actuellement, mais beaucoup plus lentement.
C'est un problème de sens, je dirais. C'est un problème du sens qu'on donne à notre vie. Est-ce que le sens qu'on donne à notre vie, c'est de faire de l'argent pour faire de l'argent, sachant que l'argent, c'est quelque chose de complètement abstrait? C'est de courir après une illusion de bonheur qui est très bien défendue et qui colonise très bien nos imaginaires à travers la publicité, à travers les médias? Ou est-ce que donner du sens à notre vie, c'est quelque part prendre le temps de rencontrer, prendre le temps de construire ensemble, prendre le temps de découvrir, prendre le temps de se confronter aussi?
On fait quand même moins de miles comme ça. Enfin, bon.
C'est intéressant. Moi, je suis un grand consommateur de mails, ce genre de choses, en particulier de Facebook. Et puis, des fois, c'est délirant. On se retrouve avec une dizaine de potes sur Facebook en train de chatter. Au lieu de se dire, on pourrait être au bistrot du coin ou chez l'un, chez l'autre, en train de discuter. Et on a créé un outil qui est un palliatif à nos modes de vie où on ne se rencontre plus. Mais on a trouvé un palliatif qui fait de la croissance, etc. C'est complètement à l'image de notre société, parce qu'on recherche quand même cette convivialité, on recherche quand même ce contact humain, et on le fait à travers des outils toujours de plus en plus performants qui n'ont pas de sens et qui nous détruisent et qui plus est, ne sont pas durables.
Mais alors, je ne sais pas si on a le temps, mais alors justement, par rapport à ces outils, cette technologie, quelle est la place? Parce que là, on pourrait profiter alors de toute cette visioconférence, ces outils Facebook, dans la société, jusqu'où on va? Ou alors, est-ce qu'il faut justement arrêter et puis revenir au contact simple, humain, dans le bar, à manger des bananes et boire du café?
La personne n'a une contradiction près, surtout dans cette société. Enfin, qu'on le veuille ou non, on vit dans cette société qu'on n'a pas construit, ou du moins qu'on n'a pas rationnellement ou de manière très réfléchie décidé de construire telle qu'elle est aujourd'hui. Donc à un moment donné, on se retrouve face à des contradictions, on se retrouve face au fait qu'on vit dans une ville comme Paris où l'accès à un logement n'est pas quelque chose d'aisé, donc on n'habite pas nécessairement dans le même quartier que tous ses amis, on n'habite pas nécessairement à côté de son lieu de travail, on n'habite pas nécessairement du fait du marché du travail tel qu'il est fait et tel que la vie est organisée culturellement, qui soit proche de tous les gens avec qui on a envie de partager des choses, puis qui plus est, on vit dans une société où on n'a pas pris l'habitude de parler avec son voisin, puisqu'on ne vit plus rien avec lui. Donc on tombe dans ces palliatifs et c'est quelque part humain de vouloir partager des choses avec les gens qu'on aime. Malheureusement, la société n'est pas organisée comme ça. Donc c'est tout le défi qui est le nôtre aujourd'hui et qu'on essaye de promouvoir au sein de notre mouvement La Décroissance, c'est les relocalisations, avant tout les relocalisations de la vie, de l'économie.
Et puis aussi,
on est pour une décroissance conviviale. D'accord. Remettre la convivialité au cœur de la société.
Eh bien, en parlant de
convivialité, on va encore gagner 2-0.
Il nous reste 2 manches. En parlant de convivialité, on va écouter un petit peu de musique, parce que la musique, c'est la convivialité. Pause musicale.
Daddy, 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 daddy. souvenirs in my memories got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
donc une musique d'une fille, voilà. C'est une fille qui chantait,
sûrement,
voilà, sûrement un petit peu anglaise, mais peut-être
anglo-saxonne,
ou scandinave, parce que les Suédois parlent très bien anglais. Allez, avant de reprendre notre rythme des chroniques, c'est l'heure du micro-trottoir, mesdames et messieurs, micro-trottoir.
Bonsoir. Donc j'ai plusieurs questions pour vous. La première question, c'est lorsque vous achetez des fruits et légumes, est-ce que vous regardez la provenance, l'origine des produits que vous achetez?
Non.
Vous n'êtes pas intéressé pour savoir, vous regardez pas?
Non, je ne regarde pas.
D'accord, vous mangez vos fruits et légumes, et puis si vous intéresse, c'est juste voir s'ils ont l'air beaux, et puis c'est tout. D'accord.
Ouais, en fait, pour acheter des fruits et des légumes de saison, donc pour acheter aussi des produits de notre pays, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'acheter des fruits et des légumes qui viennent de très très loin, qui cause un impact à la planète.
Non, c'est vrai que j'achète rarement des fruits et légumes et je ne regarde pas spécialement la provenance, même si je sais que c'est quand même quelque chose d'important.
D'accord, donc vous n'y portez pas un intérêt forcément très très grand?
Si, quand même, je sais que c'est quelque chose d'important, qu'il faudrait surveiller justement pour réduire notre impact écologique, sur notre empreinte écologique, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement.
J'achète mes fruits et légumes sur le marché, donc non, c'est vrai que je ne demande pas forcément aux vendeurs d'où viennent les produits.
Vous les achetez sur le marché local à côté de chez vous?
À côté de chez moi, oui.
D'accord, très bien. Et ma deuxième question, en fait, ça serait, est-ce que vous vous rappelez donc vos dernières vacances, en fait, où vous êtes allé et comment?
Alors, je suis parti à Barcelone et on est parti en avion.
D'accord, pourquoi en avion? Parce que c'était plus simple, plus rapide, il n'y avait pas d'autres possibilités.
Alors c'était une question de coût, c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide, bien sûr, pour un séjour d'un week-end.
D'accord, très bien.
Donc c'est au Brésil et j'y suis allé en avion, évidemment.
C'était pas facile de faire autrement?
Non, le bateau c'était un peu trop long, j'avais pas autant de temps devant moi.
Est-ce que vous y réfléchissez quand vous prenez l'avion sur l'impact écologique ou...
Oui, pour les transports en France, je prends systématiquement le train. Quasiment jamais l'avion, parce que c'est d'abord plus pratique et puis c'est beaucoup plus écologique. Mais pour les voyages à l'international, non, c'est plus difficile.
Je me souviens que c'était en Grèce.
En Grèce, et vous y êtes allé?
En Espagne.
En Espagne.
Ouais.
Et vous y êtes allé comment?
En avion.
En avion. Et donc, c'était...
Ah non, en train. Ouais. Enfin, l'aller en train et le retour en avion.
Et donc pourquoi, alors justement c'est intéressant, pourquoi l'aller en train, pourquoi le retour en avion?
C'était pas... Enfin, normalement j'aurais dû faire l'aller-retour en avion parce que c'est plus rapide. Enfin,
d'accord.
Et j'ai fait l'aller en train finalement parce que je voyageais avec quelqu'un qui a le train gratuit. Du coup,
c'était moins cher.
Pour elle, ouais.
Ok.
Non, mes dernières vacances, je suis allée à Barcelone et je suis allée en train.
Pourquoi en train plutôt que l'avion ou la voiture, je ne sais pas.
En fait, il y avait le choix soit en avion, soit en train. Et en train, il y a le train couchette, donc tu peux dormir. Et c'est plus confortable qu'à l'avion. Et parce que voilà, en fait, c'est aussi plus confortable pour moi. Et aussi, il y a moins d'impact sur la Terre.
D'accord, et ma dernière question, c'est vous êtes plutôt transport en commun ou transport individuel, voiture, enfin vous préférez prendre à Paris là, le métro pour aller travailler, le RER, ou c'est plutôt voiture, scooter, mobylette ou même vélo?
Moi, j'ai le travail, ouais, j'utilise tous les jours, même des week-ends, les transports en commun.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'autres possibilités ou c'est un choix?
ouais, en fait, j'ai pas de voiture, donc j'ai pas le choix. Mais même si j'aurais une voiture, c'est plus économique, c'est plus confortable, tout va plus vite, et c'est plus écolo aussi.
En commun. Enfin, j'ai pas le choix.
Parce que vous avez pas le choix, ou si vous pouviez être en voiture, vous seriez en voiture?
Non, mais. Enfin, c'est une question de nécessité à chaque fois. Enfin, quand je suis obligé de prendre la voiture, je prends la voiture. Mais sinon, transport en commun plutôt.
Alors, j'ai pas de voiture, donc c'est uniquement transport en commun, bus ou tramway.
C'était donc le micro-trottoir de février, comme vous avez pu le constater, un micro-trottoir spécial Saint-Valentin. Hein, comme un petit peu le thème de notre... Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois, ce qui guide les gens dans leur décision, c'est vraiment le coût du transport. Hein. Il y a eu deux, trois réponses qui étaient « voilà, bah, je prends l'avion pour faire 500 bornes pour aller à Barcelone, mais en fait, je le prends parce que c'est moins cher que le train. » Et c'est ça qui est complètement hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, prendre l'avion Ryanair pour aller à Barcelone, ça te coûte trois fois moins cher, voire peut-être même plus quelquefois, que prendre le train à Barcelone. C'est plus rapide, c'est trois fois moins cher. À partir de là.
Si, c'est quand même plus rapide, mais c'est pas le même genre de contrainte.
C'est pas le même genre de contrainte. Pas de débat sur le micro-trottoir, ok ? Parce que de toute façon, on n'a pas le temps. On est déjà à la bourre. Et on enchaîne tout de suite avec la petite chronique de Pims, qui est axée sur le transport individuel. Pims, bah ouais, c'est son problème. Ses parents, quand il est né, ses parents se sont dit tiens, on va l'appeler Pims, comme les gâteaux. Ça lui fera chier. Toute sa vie, il va se taper ce prénom Pims. Ouais, donc une chronique sur les transports individuels au quotidien et notamment sur les déplacements pour aller au boulot.
Oui, par exemple, pour aller au boulot. Donc là, on a fait pas mal de constats sur l'état des transports dans le monde et on a bien vu qu'il faut faire quelque chose. Et bah, une question un peu plus concrète sur comment changer notre société, puisqu'on vit dans une société de l'automobile. Nous, on est à Paris, on le voit peut-être pas. Mais en France, l'automobile, ça représente 80% de tous les déplacements. Et toute notre société est construite autour de ça. Les bagnoles qui ne coûtent rien, avec un carburant qui ne coûte rien. Toutes les banlieues pavillonnaires qui s'étalent et compagnie. Comment on peut faire pour sortir de cette société de l'automobile où tout est construit autour de l'automobile et d'un accès à l'énergie extrêmement peu cher? Vincent, je te pose la question.
Non, mais déjà, c'est exactement ce que tu dis. C'est, on a une société qui s'est construite autour de l'automobile, et je dirais, elle s'est construite autour de l'automobile, avec des distances toujours de plus en plus grandes entre les lieux de vie, les lieux de consommation, les lieux de travail, les lieux d'habitation, etc. Et on cherche toujours des palliatifs pour arriver à trouver des solutions pour faire déplacer toujours plus vite, toujours plus de monde. Alors qu'on devrait comprendre que le moyen de transport... le plus rapide, le plus efficace, le plus écolo, etc., c'est celui qu'on ne fait pas, quoi. C'est lorsqu'on a le marché qu'au pied du bâtiment, le bar à côté, le cinéma pas loin, le travail un petit peu plus loin, et puis on fait tout à pied, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et de plus agréable, qui plus est, à vivre.
Ça, c'est pas possible du tout aujourd'hui. Enfin, c'est... Tu t'écartes... Enfin, comment dire, c'est pas applicable au monde actuel, ou alors...
Et puis pour la vie rurale.
Alors,
et puis pour la vie rurale.
J'arrive déjà à parler un peu de l'île de France.
Ah là, t'en as deux face à toi, hein, tu fais moins le malin.
Ah, ça devient intéressant, oui. J'ai déjà parlé de l'île de France, là, parce que dans le cadre des élections régionales, où d'ailleurs on va avoir le lancement de notre campagne dimanche à 14h au CICP, rue Voltaire. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, le mieux c'est de chercher Adoc France sur Internet ou Décroissance, vous trouverez des informations. Non, donc en Île-de-France, quand on regarde, il y a 23 millions de mouvements motorisés par jour. Les deux tiers, c'est fait à partir d'automobiles. Et c'est entièrement lié à un mode d'organisation, à une urbanisation qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, quand on prend la ligne 13, par exemple, quand on prend le RER A, qui sont déjà complètement ingérables, on nous dit le problème c'est qu'il n'y a pas assez, on va en construire encore une autre, puis encore une autre. Mais la solution elle n'est pas là, elle n'est pas d'en construire toujours plus. La solution elle est dans la réflexion, quel sens ça a déjà de se déplacer autant, les gens qui se déplacent c'est pour quelle raison, quel type de déplacement ils font, pour faire quoi, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de se déplacer. Le Paris d'il y a encore peu de temps était beaucoup plus localisé, était beaucoup plus relocalisé, il y avait de la vie locale dans les villes de banlieue qui n'étaient pas encore appelées banlieue. Aujourd'hui on a des grandes cités dortoirs, tout converge vers Paris, puis des espèces de pôles économiques à gauche à droite. Le projet de Grand Paris tel que proposé là, ou imposé par la droite est encore plus délirant. On va créer des lignes de métro entre les lieux de travail, mais il n'y a pas de vie, il y a Que font les enfants, que font les vieux, que font, où est-ce qu'on a du loisir, où est-ce qu'on a de la convivialité, ce genre de questions ne sont pas du tout posées. Et c'est ça qu'il faut reposer, c'est dans quelle ville on a envie de construire, est-ce que ça a du sens d'être obligé de se taper une heure complètement serrée dans un RER ou deux heures dans une bagnole le matin pour aller bosser, qui plus est faire un boulot qui est stressant et puis qui n'est pas particulièrement intéressant et qui n'a pas de sens, qui a une finalité qui est discutable, ou est-ce qu'on a envie de se réapproprier quelque part le sens de nos vies et puis de se dire, tiens, je vais construire au niveau local un certain nombre de choses qui me paraissent beaucoup plus pertinentes et intéressantes.
Sur la question de la ruralité qui t'était posée, tu viens de Haute-Marne, donc tu connais ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je viens de Haute-Saône, mais mes parents sont de Haute-Marne.
Ah d'accord, pardon.
Je vois que tu enquêtes bien.
Et tes parents sont de Haute-Marne, mais toi t'es Haute-Saône.
Exactement.
D'accord, donc ça paraît. Je suis né dans un autre...
C'était une précision qui était importante.
Une discussion devient passionnante, en effet.
La Haute-Saône ou la Haute-Marne ? Tel est le débat de ce soir. Non, mais l'idée, c'est... Comment aujourd'hui tu fais pour te déplacer justement quand tu habites en Haute-Saône ou en Haute-Marne, que tu dois faire 5 ou 6... Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est... Est-ce que tu attends le bus de Langres qui passe une fois tous les 3 quarts d'heure, ou est-ce que tu te sers de ta voiture ? Voilà, enfin tu vois, l'automobile c'est quand même un progrès en soi qui est infini quand c'est créé.
Alors, on est sur une approche de bon usage et de mésusage. Le problème de l'automobile ne doit pas être posé de manière dogmatique. Est-ce que je suis pour ou contre l'automobile ? Ça n'a pas de sens. L'automobile est un outil qui existe. C'est un outil qui peut rendre des services tout à fait intéressants. Mais c'est en aucun cas un outil autour duquel on doit construire une société. Et c'est pas non plus un outil qu'on doit dire c'est interdit dans une société. Après, on peut trouver, soit on crée une société malade et puis on trouve des palliatifs pour essayer qu'elle vive malgré qu'eux, soit on crée une société qui est en bonne santé, et puis en plus on a des outils qui vont bien pour qu'on y vive encore mieux. Et je dirais, c'est tout le défi de la décroissance, c'est un nouveau paradigme, un nouveau projet de société, et c'est repenser la société en profondeur, dans les zones rurales ou en ville, de manière globale. Et ce ne sera pas fait partout pareil, ce ne sera pas fait pareil à Marseille ou à Paris, ce ne sera pas fait pareil en Haute-Saône ou même qu'en Haute-Marne, puisqu'il y a des spécificités locales, culturelles qui font qu'il y a des différences. Donc c'est se poser la question, c'est comment on construit un modèle de société qui a du sens, on se réapproprie nos choix de vie, ou de manière collective, politique, c'est de la politique au sens noble du terme, avec un grand P, la vie de la cité. Comment est-ce qu'on décide démocratiquement, qu'est-ce que l'on veut faire ensemble et comment on le fait ? C'est ça la décroissance. Et non pas de savoir, merde, j'habite à la campagne, et puis le seul magasin que j'ai, il a 20 bandes de chez moi, en plus c'est tout sous cellophane, c'est le Cora, comment je fais pour y aller si j'ai pas de bagnole ? Le problème, il est là, on est dans des modes de pensée qui sont, comment trouver des systèmes curatifs à ça ? Alors que là, on devrait se poser la question, c'est, j'ai des champs, à la campagne, on a tout. On a tout, à part qu'il y a eu une exode rurale qui a fait que on se retrouve très isolé, avec de moins en moins de choses intéressantes à faire ensemble. Et la décroissance, c'est aussi repenser cet équilibre entre campagne, entre ville, avec des logiques de densification des populations, avec des logiques de soutenabilité au niveau local, avec des logiques de relocalisation des économies, relocalisation des productions, de raccourcir tout ce que sont les chaînes commerciales, les chaînes d'approvisionnement, etc. C'est pareil dans notre projet parisien.
Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire justement sur cette notion de ruralité. On va peut-être enchaîner.
Moi, j'aimerais juste revenir sur quelques éléments que tu as dit. Donc, si je comprends bien, en fait, ta position, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir sur les transports en commun sans réfléchir de manière globale sur l'urbanité.
Exactement.
D'ailleurs, ça rejoint ce qui a été dit ce week-end au colloque où je t'ai croisé.
Tout à fait.
Sur le ralentir la ville qui s'est passé à Vaux-en-Velin, dans Lyon. Et donc du coup, j'avais deux questions.
Vaux-en-Velin et dans Lyon, c'est bien.
Vaux-en-Velin, enfin, dans le Grand Lyon.
Fusion, acquisition entre les villes.
Ah, c'est une banlieue, donc
c'est une banlieue, c'est ça, où tous les gens viennent dormir et c'est tout ce qu'ils font. Mais du coup, ma question, c'est du coup ton point de vue sur les mesures que les gens essaient d'appliquer au quotidien. Je pense à quelqu'un qui était là, qui est le président de la communauté d'agglo, Gabriel Amar, qui parlait de gratuité des transports, qui permettrait qu'on arrête de prendre la voiture. Pour lui, il faisait un lien direct. Donc ça, c'est ma première question. Gratuité des transports, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est trop tôt pour en parler dans le projet de la décroissance ? Ou est-ce qu'on peut déjà imaginer ce genre de mesures ? Voilà, première question. J'ai oublié la deuxième.
Et là donc on voit par exemple gratuité des transports en Île-de-France. Pour moi, c'est une connerie. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a 23 millions de mouvements motorisés par jour. Donc, gratuité dans les transports, ça veut dire les deux tiers qui sont faits en voiture demain, une grande partie, pas toute, parce que après, c'est pas développé entre les banlieues, etc. Une grande partie seront faits en transport en commun. On se rend compte aujourd'hui que les transports en commun sont déjà totalement saturés en Île-de-France. Donc ça veut dire construire de nouvelles lignes de métro, construire de nouvelles lignes de bus, construire de nouveaux tramways, quoi. Construire toujours plus, sans poser la question qui est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on a autant de monde qui se déplace tous les jours en Île-de-France ? Et en fait, ce mouvement continu de millions de personnes qui le matin vont bosser, le soir rentrent chez eux, ça vient du fait qu'on a un aménagement du territoire qui est complètement stupide, qui n'est pas soutenable. Et puis en plus, ça vient du fait qu'il y a un accès au logement qui est complètement injuste. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille aujourd'hui et qui a un salaire modeste, qui travaille aujourd'hui sur Paris, n'a pas du tout les moyens d'avoir accès à un logement à proximité de son lieu de travail à Paris. Il n'a pas les moyens d'avoir une vie avec ses enfants, sa famille, etc. à Paris. Parce que derrière, il y a toute une logique de spéculation immobilière. Derrière, il n'y a pas eu une réflexion politique sur quel type d'aménagement du territoire on veut faire. Donc ce que je voulais dire là tout à l'heure sur Paris, nous, on en est à interdire l'utilisation de l'automobile dans Paris, à une relocalisation totale de la vie, de l'économie dans Paris, à l'application de la loi sur les réquisitions de bâtiments vides, interdiction de la spéculation sur tout ce qu'on peut voir. Il y a un nombre monstrueux de bâtiments vides dans Paris, une réhabilitation de ces bâtiments et puis une réappropriation de l'espace public. Il y a aujourd'hui une grande majorité de l'espace public qui est utilisé pour faire garer des morceaux d'acier qu'on appelle des voitures. C'est un truc complètement délirant. Quelqu'un qui viendrait de 2 siècles en avant ou dans 2 siècles, il verrait ça, il sortirait dans la rue, il dit « Mais c'est quoi, c'est débile ?» On regarde partout autour, on voit des morceaux d'acier garés partout, des trucs qui, souvent dans Paris, ne sont pas toujours utiles parce qu'on n'utilise pas tous les jours, c'est cire pour circuler en voiture. Donc se réapproprier l'espace public pour faire autre chose. On parle d'un retour de la terre dans Paris, remettre en place des jardins potagers partagés, mettre en place des lieux de convivialité. C'est quand même invraisemblable que dans Paris, quand on est un groupe de plus de 10, on ne trouve aucun endroit pour aller manger un morceau si on n'a pas réservé à l'avance, pour aller boire un verre. Pour partager de la convivialité, etc. Donc c'est se réapproprier tout cet espace public pour redonner du sens à nos vies, et puis sortir de ces logiques destructives de bosser comme un fou pour payer sa bagnole dont on a besoin pour aller bosser.
Juste pour les réservations, quand t'es 10, tu vas au McDo, tu réserves pas. Hein,
j'y ai pas pensé, désolé.
Le bon plan.
Tu viens comme t'es, direct. Pas problème.
Du coup, ta vision de... Enfin, si je réfléchis sur Paris et l'Île-de-France, ce serait de quoi? De relocaliser, en fait, le travail dans les entités qui se sont développées, ce qu'on appelle les banlieues.
Exactement.
D'accord.
De cette organisation centralisée avec Paris intramuros et des millions de personnes qui convergent tous les matins vers Paris et qui repartent tous les soirs vers leur...
Mais là, c'est presque le système français. Enfin, si en Allemagne, où c'est tout décentralisé, c'est ça qui est préférable, donc, grosso modo. Parce que là,
L'Allemagne, c'est la décentralisation au niveau des Länder, quoi. C'est très, très, oui, voilà. très macro.
On parle aussi de densification de l'urbanisme. En Allemagne, par exemple, on est encore dans cette approche, comme en France, comme un peu partout en Europe, dans cette approche du petit pavillon et de ces villes qui s'agrandissent sans plus finir, avec une pelouse qui ne sert à rien, ce qui est un gâchis de terre, et puis chacun son petit pavillon, sa bagnole, on parle surtout pas à son voisin. On est encore dans ce type d'urbanisme qui est pensé une logique de convivialité, de partage, de faire ensemble, de construire ensemble, mais dans une logique de l'image, une illusion de bonheur que tiens, si j'achète le pavillon, peut-être que j'arrive mieux à parler à ma femme, comme nous vendent les pubs, quoi.
Non, mais la pelouse est quand même bien tendue.
Elle est bien tendue, ça. On pourrait mettre des moutons dessus à la place. C'est plus efficace que la tondeuse à pétrole.
Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions, des affirmations Alors non, merci.
Non, merci.
Ça ira pour cette fois. C'est donc l'heure de l'objet inutile.
Objet inutile.
Ce jingle était...
Il est beau. Oui.
Ce jingle était fait...
On rappelle pas les scores de chacun depuis qu'on fait cette émission.
Si là, on peut, parce que je pense que je gagne.
Bah, t'as un point et les autres zéro, c'est ça?
Je gagne.
Donc j'en ai deux. Alors un qui est moyen facile, un qui est moyen difficile.
Tu peux peut-être réexpliquer les règles. Vincent, de toute façon, est un habitué.
Il n'y a pas de règles, l'émission,
donc il connaît les règles. Mais pour les nouveaux auditeurs, et puis chaque semaine, ils viennent de plus en plus nombreux.
Il y en a de plus en plus.
Alors les règles sont, il faut trouver la solution.
Allez-y. Première question.
on pose nos questions.
Je vous laisse venir.
Sylvain pense dans sa tête à un objet qu'il considère comme inutile et nous devons le deviner. Sylvain répond par oui ou par non lorsque nous lui posons.
Donc c'est un objet là qui est vraiment, je pense, inutile. Après, il y a toujours des cas exceptionnels où ça peut servir, mais la moyenne, c'est vraiment...
Est-ce que c'est dans la cuisine?
On peut le mettre dans la cuisine.
C'est un objet domestique?
C'est un objet domestique, oui.
Un chien?
Non.
Est-ce qu'on peut sortir dehors avec?
Enfin, ouais, tu te galères pour faire ça.
Est-ce que c'est électrique?
C'est électrique, ouais.
Avec des piles ou sur secteur?
Oh, je pense que c'est plutôt sur secteur. C'est un très gros consommateur.
Ça marche à l'uranium alors?
Pas forcément.
Non mais Vincent n'a rien compris au jeu. Il nous explique.
Une centrale. Une centrale nucléaire.
C'est volumineux?
Ça prend de la place, oui.
Une télévision?
Non, c'est pas ça.
Toute
ça
la peut... famille peut s'en servir. C'est vrai que ça aurait pu.
Toute la famille peut s'en servir, mais en général, bon, c'est souvent encore dans notre société la maman.
Ah, donc c'est un robot ménager ou quelque chose comme ça? C'est pour la cuisine? C'est pour faire la cuisine?
Le sèche-linge.
Exactement, le sèche-linge.
Le sèche-linge, il est bon!
Non, il est vraiment costaud.
Ah, il est bon!
Donc le sèche-linge est un appareil donc, qui consomme plus de 500 kW par an. Donc je sais pas ce que ça veut dire en termes de quantité, mais ça fait un gros chiffre. Et qui remplace donc le fil à linge.
T'aurais pas dû dire 500 kW.
Ça a remplacé le fil.
Qui remplace le soleil, le vent et le fil à linge.
Voilà,
c'est quand même une belle technologie.
Donc c'est pas inutile.
C'est même pas 500 kW, c'est 500 000 watts.
Oui, 500 000 watts, évidemment.
Ah, c'est énorme.
500 000 watts. voilà le premier. Joli Vincent. Bon, un deuxième. Alors là, beaucoup
allez,
plus.
Allez, un deuxième et ce sera le dernier.
Donc là, c'est une variante d'un objet qui, en soi, lui, est pas inutile, mais cette variante-là, elle est vraiment, vraiment bizarre.
Oula.
Donc, allez-y. Est-ce que c'est domestique?
Non, là, c'est pas.
Électrique?
Non plus.
Ça marche au pétrole?
Non, non, ça n'a pas nécessité beaucoup d'énergie pour.
Est-ce que c'est utilisé par toute la famille?
Ça peut être utilisé par toute la famille.
La brosse à dents électrique?
Non.
Et on s'en sert dehors?
Non.
Dans la maison,
on s'en sert dehors. C'est un objet pour partager.
Un gâteau?
Un gâteau effectivement non électrique.
Et voilà, c'était un objet inutile, le gâteau.
C'est chaud, un truc pour faire des crêpes.
C'est un moyen de communiquer pour certains événements.
Un ordinateur.
Pour certains événements.
Le téléphone arabe.
Non.
Et les pots de yaourt avec le fil au milieu.
Non.
C'est vrai que la version électrique n'existe pas.
Là, on s'en est beaucoup servi en janvier.
La galette des rois.
Mais arrête avec des gâteaux, toi.
Le haut-parleur, ouais, c'est pas.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait en janvier en général?
Eh ben, on souhaite bonne année. Ah, le SMS.
Le SMS, pas celui-ci, non?
On le téléphone.
Anciennement, comment on faisait?
La carte de vœux.
La carte de vœux, voilà. Mais cette fois, celle-ci.
Électrique. La e-card.
Musicale.
La carte de vœux.
Les cartes de vœux. Vous savez quand vous recevez une petite carte de vœux et que ça fait. Oui, mais par rapport à une carte de vœux classique.
C'est super connard, c'est celui qui envoie des cartes de vœux musicales.
Voilà. Bon, je trouvais que c'était un ajout, enfin, pas forcément utile, cette petite pile.
Ouais, ça aurait été mieux qu'on le fasse dans l'inverse, comme ça. On aurait terminé sur une bonne.
Et alors, les chiffres sur la carte de vœux, l'empreinte écologique de la carte de vœux.
La carte de vœux, donc.
Attention, estimation en direct.
Combien de kilowatts?
On en distribue plutôt de plus de 500 millions dans le monde à travers. Au mois de janvier.
500 millions par jour.
500 millions par jour du mois de janvier.
C'est-à-dire que
c'est du 1er janvier. Par jour du 1er janvier.
Si toutes les semaines vous ne recevez pas une carte musicale, personne ne vous aime.
Et c'est pire pour les gens qui sont nés en janvier qui reçoivent aussi une carte d'anniversaire musicale.
Allez, on raconte n'importe quoi, on va arrêter là. Merci Vincent Liégé d'avoir été avec nous ce soir.
Eh ben, merci à vous.
On peut retrouver l'émission donc, sur www.décroissant.org, décroissant comme des pains au chocolat. Et je vais pas aller plus loin.
Et donc on arrête là. Merci à tous de nous avoir suivis. Il est 20h30 et 40 secondes. On a 40 secondes de retard, c'est assez rigolo.
Prochaine émission, donc c'est musique en
fille.